Inspirée. Rencontre avec un artiste. Une production de la plateforme des radios protestantes.
Bonjour, moi c'est Michael, j'ai 45 ans et ma passion c'est la Bible et l'histoire.
Inspirée. Bonjour Michael Langlois.
Bonjour.
Vous êtes bassiste, compositeur, mais aussi théologien. On retrouve un de vos morceaux tout à l'heure, mais avant cela, j'ai choisi un verset, donc un verset biblique, donc Proverbe 1, chapitre 1, verset 7. C'est « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. » De prime abord, qu'est-ce que ça évoque ?
Ah, mais moi, c'est toute mon enfance. Moi, je suis tombé dans la marmite étant petit, et c'est sûr que c'est l'éducation que j'ai reçue. Et je trouve que ce verset, il est vraiment fondamental pour la foi, qu'on soit juif ou chrétien. À partir du moment où on lit la Bible, on se rend compte que la Bible, elle est là pour ça, en fait. Elle est là pour nous enseigner le savoir, la sagesse. Et c'est une mine de ressources pour l'enseignement, pour l'éducation, pour la vie, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui a traversé votre vécu ? Quelles ont été vos avancées professionnelles ou peut-être même d'autres, hein ? C'est un sujet un peu plus vaste, une grande question, mais voilà, je vous écoute.
J'ai toujours été passionné par la Bible, très curieux. Beaucoup de questions aussi parce que ma formation au départ, c'est une formation en sciences, ce qu'on appelle les sciences formelles, mathématiques, physique, informatique. Donc, j'étais quelqu'un de très rationnel et donc j'avais besoin de donner du sens, de comprendre. Je repérais ce qui me semblait être un peu des incohérences entre notamment les différentes traductions de la Bible en français. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, tout ça m'a amené à arrêter mes études de mathématiques et à aller faire des études de théologie. Et puis ensuite, ça m'a tout de suite passionné. À chaque fois que je découvrais, je voulais en savoir davantage. Très vite, je me suis dit, pour bien comprendre la Bible, il faut comprendre les langues bibliques, c'est la base. Et puis il faut aussi comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Comment les auteurs de la Bible raisonnaient, quelle était leur culture. Et donc, tout ça m'a amené à faire ensuite des études d'histoire, de philologie, c'est-à-dire l'étude des textes anciens. Tout ça dans le but de mieux comprendre l'histoire de la Bible, qui l'a écrite, à quelle époque, de quelle manière, comment elle a été transmise jusqu'à nos jours. Je le faisais avant tout par passion, sans forcément me dire que j'en ferais mon métier, parce que j'avais toujours mes diplômes de mathématiques en poche. Je pouvais être prof de maths ou informaticien. Je gagnais d'ailleurs un peu d'argent comme ça en étant informaticien. Mais finalement, ça s'est super bien passé. J'ai eu très vite, après ma thèse de doctorat, un poste à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, où je suis toujours avec grand bonheur. Et donc voilà, je consacre ma vie à l'étude et à l'enseignement de la Bible dans sa dimension historique.
Au niveau de votre travail, enfin de votre travail personnel, entre l'inspiration et la création artistique, quelle est selon vous, déjà c'est quoi pour vous l'inspiration, et ensuite quel est le lien entre ce travail artistique et l'inspiration ?
Alors l'inspiration, c'est la racine, c'est la même que celle de respirer, donc il y a l'idée de souffle. Donc pour moi, quand on parle d'inspiration, on parle de souffle. Alors bien sûr, il y a le fait que soi-même en tant qu'individu, le souffle c'est la vie, on respire, donc c'est ça qui nous donne de vivre en fait. Donc l'inspiration, c'est cette énergie de vie, c'est cette énergie qui nous pousse vers l'avant et qui nous amène dans des endroits peut-être qu'on ne connaissait pas. On y va, on est motivé, c'est cette énergie, cette dynamique. Et bien sûr, l'inspiration, ça a aussi une connotation théologique. Il y a un verset de la Bible qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », c'est-à-dire souffler littéralement, « théopneustos » en grec. Donc c'est vraiment cette idée que Dieu souffle derrière. Et c'est aussi l'idée, évidemment, comme je disais, moi je crois même... cette inspiration divine, c'est pas simplement le tout premier auteur, tout premier éditeur d'un livre de la Bible. Ça va être toutes ces générations de scribes qui se sont succédés pour transmettre le texte, pour à chaque fois le retravailler, pour l'améliorer. Et donc, je crois que ce souffle divin, c'est un souffle continu d'une certaine manière. Cet esprit, le mot esprit, c'est le mot souffle aussi, quand on parle de l'esprit de Dieu. Eh bien, c'est ce souffle qui nous lie à Dieu, qui par lequel Dieu interagit, ce Dieu invisible interagit avec nous, avec le monde visible. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui peut nous pousser, comme le vent qui souffle dans les voiles d'un bateau et qui nous amène comme ça au large et à découvrir des horizons nouveaux.
Je vous propose qu'on écoute un de vos morceaux peut-être que vous avez créé.
Ah oui, avec plaisir.
Comme un enfant bien aimé, toujours pardonné par son père impatient. Grâce à inlassablement. Quand je reviens à toi, tu m'accueilles dans ton amour. Ton amour. Ton amour.
Alors, il y avait une mélodie. En tout cas, une ébauche de mélodie qui m'a inspiré, justement, et qui m'a fait penser à ce thème de l'amour des parents pour leurs enfants. Que ce soit l'amour des parents qui décident de concevoir un enfant, qui l'accompagnent tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement, les premiers pas. Et puis, bien sûr, cette image de l'amour de Dieu pour nous, puisque nous sommes les enfants de Dieu. Et donc, quand on prie le Notre Père, voilà, on s'adresse à Dieu comme étant un papa, et se dire finalement qu'est-ce que ça veut dire cet amour de Dieu pour nous. Et puis aussi, bien sûr, Jésus est fils de Dieu, pas de la même manière que nous tous. Nous tous sommes les enfants de Dieu, mais lui, il est d'une manière toute particulière, et il va mourir sur la croix. Et qu'est-ce que c'est que la douleur d'un père qui voit son fils, les douleurs, la mort de son fils. Voilà, donc j'ai essayé de traduire ça, finalement, dans cette chanson. Donc au fur et à mesure où j'ai écrit les paroles, on a modifié un peu la mélodie. Enfin voilà, donc ça a été un travail comme ça qui a pris quelques temps, quelques mois, jusqu'à ce que la chanson soit finalisée et qu'on l'enregistre. Voilà, cette chanson, elle résonne tout particulièrement pour moi parce que maintenant je suis papa. Donc à l'époque où j'avais écrit cette chanson, j'avais envie d'avoir des enfants. J'ai toujours envie d'ailleurs d'avoir d'autres enfants. J'ai une fille et j'aimerais bien avoir d'autres enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ceci restait d'une certaine manière assez théorique pour moi. J'avais toujours eu envie d'avoir des enfants. En plus, j'aimais m'occuper des enfants. J'avais passé mon BAFA, j'étais animateur et même j'ai même été directeur de centres de vacances, de colonies de vacances. Donc tout ça, ça a toujours été important pour moi. L'éducation, la transmission et le fait de voir un enfant grandir, ça a toujours été passionnant pour moi. Mais là maintenant, cette chanson que j'ai écrite il y a quelques années maintenant, elle revient de nouveau, chère à mon cœur, maintenant que je suis moi-même papa.
Est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre et de dire a peut-être une autre résonance avec le son cloche de notre verset de départ ?
Ben oui, bien sûr, ça m'évoque aussi mon rôle de parent, justement de cette transmission, de la sagesse, de cette éducation à apporter à ses enfants. Et je pense que c'est un rôle fondamental. Ce verset a traversé les millénaires, mais il reste d'une actualité extraordinaire. Ça me fait de la peine aujourd'hui de voir que dans notre société, de plus en plus de gens s'écartent du rôle parental. On a l'impression que les parents ont de moins en moins de rôle. Bon, c'est vrai que malheureusement, la vie fait que beaucoup de gens divorcent aujourd'hui. Et souvent, les enfants sont pris en otage et les parents se servent des enfants. Et en particulier en France, hein, c'est triste, mais le système actuel ne protège pas suffisamment les enfants, ne garantit pas suffisamment le droit fondamental d'un enfant à être élevé par ses deux parents. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas, à vrai dire. Je ne savais pas que la France, disons, avait tous ces problèmes-là. Donc, c'est bien, c'est l'occasion de le dire aussi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut donner plus de moyens pour la protection de l'enfant et garantir qu'un enfant puisse être élevé par ses parents. Parce que les parents, ce sont ceux qui sont aux premières loges. Ce sont ceux qui ont la plus grande responsabilité pour élever leurs enfants. Ils leur donnent la vie et ils les accompagnent tout au long de la vie. Et pour moi, c'est vraiment important et c'est aussi, il faut y réfléchir avant d'avoir des enfants d'une certaine manière, j'ai envie de dire, à ceux qui nous écoutent et qui peut-être, il ne s'agit pas d'avoir des enfants juste par caprice personnel, j'ai envie de m'acheter, je ne sais pas, un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, j'ai envie d'avoir un enfant. Si on a un enfant, c'est pour se donner complètement pour son enfant et lui donner tout ce dont il a besoin pour être heureux dans la vie. C'est ça le rôle d'un parent. Et c'est vraiment important aussi que notre société, du coup, que ce soit le système judiciaire de la protection de l'enfance, les services sociaux, les services de l'éducation nationale, etc., valorise le travail, le rôle des parents dans auprès de leurs enfants.
Merci beaucoup, Michaël Langlois. Puis merci aussi d'avoir accepté cette interview dans notre rencontre inspirée. Et puis peut-être à une prochaine fois.
Ah, ce sera avec grand plaisir.
Je vous souhaite une très bonne continuation.
Bonne journée.
Inspiré. Rencontre avec un artiste. Une production de la plateforme des radios protestantes.